Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous accompagne où que vous soyez pour que 2020 soit une excellente année. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous propose aujourd'hui de nous arrêter dans un pays, la République démocratique du Congo, confronté simultanément à deux épidémies exceptionnelles tant par leur durée que par l'ampleur des contaminations et le tribut payé par les populations à ces maladies. Depuis août 2018, 18 mois désormais, l'Est de la RDC, province de l'Ituri et du Nord Kivu, qui ont enregistré plus de 3800 cas de contamination à la maladie à virus Ebola. 3800 cas, 2235 morts la semaine dernière encore à Beni, de nouveaux cas confirmés. La RDC, où sévit depuis plus d'un an, là encore, pour reprendre l'expression employée par l'OMS, la pire épidémie de rougeole au monde. L'infection virale a déjà tué 6000 personnes dans le pays, alors que plus de 310 000 cas suspects ont été recensés, avec les enfants en première ligne, d'où la nécessité d'étendre la vaccination. Et pour cela, l'OMS a des besoins urgents en financement. Rougeole, Ebola, deux épidémies pour un même pays, une vulnérabilité favorisée par un système de santé très précaire, insuffisance en termes de vaccination, la malnutrition, une somme alarmante qui, associée à l'insécurité chronique, fragilise le sort de plusieurs dizaines de millions de personnes et appelle une réponse impérieuse, comme le soulignait encore la semaine dernière la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, en exhortant les donateurs à intensifier leur assistance d'urgence. Campagne de vaccination, appel à la mobilisation, urgence face aux épidémies en RDC. Pour en parler aujourd'hui avec nous, docteur Christopher Mamboula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de cellule adjointe en charge de la médecine à MSF. On va retrouver au cours de cette émission en ligne le docteur Anice Umba qui se trouve dans la zone de santé Seke Banza, 80 km à l'ouest de Matadi. Docteur Umba qui est référent médical au projet Congo Central pour Médecins sans frontières. Et puis, reportage à suivre dans Priorité Santé, celui d'Igor Strauss, réalisé le mois dernier à Goma, dans la province du Nord Kivu, à la rencontre des acteurs communautaires engagés dans la riposte à Ebola, initiative citoyenne de terrain.
Priorité Santé sur RFI.
Ses dimensions, la durée, la sévérité, l'importance du bilan humain. La RDC touchée de front par deux épidémies. Et dans un premier temps, on va parler avec vous de la rougeole, docteur Mamboula, ce que l'OMS désigne comme la pire épidémie au monde. 6000 morts, 3100 cas, c'est énorme. Beaucoup de chiffres, hein, comme ces 18 millions d'enfants de moins de 5 ans vaccinés à travers le pays l'an passé. Une épidémie. On le comprend d'emblée, docteur Christopher Mamboula, la première des réponses face à la rougeole, c'est bien évidemment la vaccination.
Oui, effectivement, c'est la vaccination parce que la rougeole n'a pas un traitement spécifique. Donc la seule façon de prévenir est d'être vacciné contre la rougeole.
Aujourd'hui, on est face à quelle situation? On est encore en phase d'expansion, d'extension de l'épidémie ou il y a déjà une régression enregistrée?
Nous pouvons dire que ça dépend sur la province. Il y a des provinces où l'épidémie est en régression, mais il y a quelques provinces ou quelques zones de santé qui l'épidémie est en cours. Et là, la troisième phase de bloc de vaccination, ça vient d'être terminé. Donc, en espérant que d'ici quelques semaines ou quelques mois, cette épidémie sera contrôlée.
Vaste territoire de la RDC. Est-ce que précisément, quand on regarde la carte au niveau de la géographie, on a des zones particulières active de rougeole, davantage vers le sud, l'est. Est-ce qu'on peut se faire une idée justement comme ça en termes territorial?
Oui, à l'heure actuelle, on peut parler des provinces comme Équateur, là où en fait on peut dire que l'épidémie ces derniers temps, la dernière semaine de 2019, première semaine de 2020. La réalité, c'est que l'épidémie a touché presque toutes les provinces au pays. Ça a commencé plutôt dans le sud, l'est du pays. Maintenant, c'est parti presque partout.
Du côté de la sévérité de l'affection, on soulignait ce bilan de 6000 morts quand même. On parle de, le terme technique, la létalité de la maladie. Ça veut dire qu'on a davantage de risques de mourir que simplement de développer comme ça une affection. Est-ce que cette rougeole en RDC, c'est une maladie particulièrement grave? Est-ce qu'on en meurt beaucoup? Même si cette expression peut être bizarre, mais c'est quand même le cœur du sujet. Est-ce que quand son enfant développe la rougeole, eh bien, il a beaucoup de chances d'y survivre, ou il y a de vrais risques?
Il y a des vrais risques. Aujourd'hui, nous parlons d'environ 2% de taux de létalité. La réalité avec la rougeole, c'est aussi que il y a pas mal de décès qui se passent après. Donc, ça veut dire que, à cause des complications, et parfois, ils ne sont pas notifiés comme la rougeole. Donc, aujourd'hui, nous parlons de 6000 morts qui sont liés presque directement à la rougeole, mais c'est possible ou probable que nous avons beaucoup plus de décès par rapport à ça. Et en plus de ça, c'est que la rougeole, c'est aussi, ça a créé beaucoup de dégâts et beaucoup de complications chez les enfants, surtout les enfants.
Alors, pourquoi autant de cas? Ça veut dire que trop d'enfants n'ont pas été vaccinés, c'est cela?
Alors, le problème avec la rougeole, c'est que le vaccin est donné aux enfants souvent à partir de 9 mois de vie. Le vaccin n'est pas à 100% en termes d'immunité. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques enfants, même si vaccinés, qui se développent pas l'immunité tout de suite. Donc, il y a aussi quelques enfants qui ne sont pas vaccinés à cause, principalement, on peut dire, de l'accès ou de la manque d'accès, en fait, au vaccin. Donc, qui fait que après, on peut dire, 4, 5 ans, 6 ans, cette accumulation de nouveaux, on peut dire, les enfants nés et aussi une population qui ne sont pas soit vaccinés ni immunisés. Donc, dans ce cas, on peut avoir les épidémies il y a un cycle, on peut dire, qui se développe.
Surtout que la rougeole a une particularité, c'est que c'est l'une des maladies les plus contagieuses.
Si. C'est très contagieux, c'est très très contagieux parce que l'infection, ça passe à un individu à l'autre, même par voie aérienne. Donc, disons que si quelqu'un a la rougeole et tout, en fait, dans une salle, c'est possible que pendant 2 heures, le virus reste, on peut dire, dans l'air.
Dans l'air. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se toucher, il n'y a pas besoin de s'embrasser, il n'y a pas besoin d'être dans l'intimité. Simplement, être dans la même pièce, on a un risque de contagion. On va vous retrouver dans quelques instants, docteur Christophe Amamboula. On va rejoindre l'un de vos collègues sur le terrain.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Anissé Oumba, bonjour.
Bonjour madame, bonjour tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes référent médical du projet Congo Central pour MSF. Alors vous trouvez dans la zone de santé Sekebanza, c'est à l'ouest de Matadi. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe sur place en ce moment pour vous? Où en est l'épidémie de rougeole?
Bon, merci. Actuellement, MSF est aujourd'hui dans la zone de santé de Sekebanza. Mais avant ça, on a commencé il y a à peu près un mois et plus dans le Congo central où nous sommes dans plusieurs zones de santé ici. Et sur les anciennes zones, il y a une stabilité sur le plan évolution. Mais ici, à Sekebanza, où nous sommes juste il y a plus d'une semaine, il y a encore une évolution ascendante de l'épidémie.
Et au niveau de la vaccination, comment ça se passe? Quand vous êtes arrivé sur le terrain, est-ce qu'il y avait des vaccins? Et est-ce qu'il y avait tous les équipements, justement, pour la conservation de ces vaccins? Je pense, bien sûr, au réfrigérateur, au système de froid, parce que ce vaccin de la rougeole, eh bien, il est très sensible.
Eh bien, après nos missions d'évaluation dans différentes zones de santé, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait une difficulté logistique, notamment en termes d'équipement des chaînes de froid. Il y a peu de réfrigérateurs, les quelques réfrigérateurs qui sont dans certains centres de santé sont soit vieillissants, soit en panne parce que c'est du système solaire. Et à ça, il faut ajouter aussi la difficulté qu'éprouvent les différentes zones de santé dans l'acheminement de certains matériels, notamment liés à la vaccination.
Comment est-ce que vous faites savoir quand vous arrivez sur un territoire, dans un village, sur un site, que ça y est, la campagne de vaccination est lancée, que les mamans, que les papas peuvent amener les bébés? Comment ça se fait savoir?
Bah, nous avons toute une série de communications à faire, notamment avec les différents leaders communautaires, les responsables religieux, les chefs coutumiers, et bien les relais communautaires aussi qui sont d'importantes personnes dans la communication. Et nous passons plusieurs types de messages, nous utilisons plusieurs canaux de communication, notamment les radios locales, les églises où nous faisons passer des messages pendant les cultes. Nous utilisons aussi des messages publics. Comme je disais, les relais communautaires, ils passent dans les villages avec des mégaphones en train de lancer ces messages. Et parfois, nous affichons aussi les mêmes messages sur des lieux publics et à différents endroits.
Alors là, on parle des méthodes pour que les gens viennent vous voir. Moi, j'aimerais qu'on insiste pour terminer sur ce qui bloque, ce qu'on peut changer pour améliorer les choses. Docteur Anice Oumba, qu'est-ce que vous avez comme message à faire passer, peut-être à la population, peut-être aux acteurs de santé locaux, pour que cette vaccination s'améliore et puis que l'information passe mieux sur cette maladie très contagieuse, la rougeole? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je commencerai par dire que la rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Et il y a que la vaccination qui peut stopper. Et donc, une bonne vaccination de routine. Et il faudrait qu'il y ait de la mobilisation. Et cette mobilisation doit commencer au niveau local. C'est-à-dire que les parents qui refusent d'amener leurs enfants aux différentes campagnes, aux différentes séances de vaccination, ils enlèvent de leur croyance l'idée de dire la rougeole peut finir avec les plantes indigènes, ça peut finir avec des cérémonies, non. Ça doit finir rien qu'avec la vaccination. Et avec la vaccination, les parents peuvent amener tous leurs enfants, que ces enfants-là puissent avoir accès à toutes les séances de vaccination. Parce qu'aujourd'hui, ici, on retrouve non seulement des enfants, mais des adultes de plus de 30 ans qui ont la vaccination, vous avez dit,
Docteur Oumba, j'insiste sur ce point, c'est important et c'est gratuit.
Oui.
Et ça, il faut le dire, c'est gratuit.
Le vaccin est gratuit, on ne l'achète pas, il est gratuit dans toutes les structures de santé. Et quand il y a des campagnes de vaccination de masse, c'est également des bonnes occasions aussi de rattraper toutes ces personnes qui n'avaient jamais reçu le vaccin. Et c'est également gratuit aussi.
Merci beaucoup, docteur Anice Oumba. Je rappelle que vous êtes référent médical pour le projet Congo Central de MSF.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
La rougeole en RDC, toujours avec nous en studio, docteur Christopher Mamboula. Et on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de l'émission. Premier auditeur, bien sûr, en ligne de RDC, de Bukavu, c'est Arsène que l'on retrouve. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour madame, bonjour.
On écoute votre question, allez-y Arsène.
Oui, ma question est de savoir si un enfant peut attraper la rougeole après avoir eu le vaccin contre cette dernière.
Est-ce que c'est le cas de votre fils?
Oui, c'est le cas de mon fils qui a 1 an et 6 mois. Il s'était fait vacciner vers le mois de septembre contre la rougeole, mais après sa vaccination, l'enfant était tombé malade. Il avait des symptômes comme la toux, la grippe, une forte fièvre, manque d'appétit. Et parfois, il vomissait et il développait des ulcères sur sa peau. Et à la maison, on lui donnait des calmants, croyant que c'était une grippe passagère, mais ça s'aggravait davantage.
Aujourd'hui, comment est-ce après que va votre semaines, fils, monsieur Arsène, comment va votre fils aujourd'hui?
Il va déjà un peu bien parce qu'on l'avait amené dans un premier hôpital, ça n'avait pas tenu, mais dans un deuxième hôpital, on avait détecté que c'était la rougeole.
Docteur Christophe Mamboula, qu'est-ce que vous pouvez dire à Arsène? En fait, il y a deux questions. Il y a comment est-ce qu'un bébé, un petit enfant peut contracter la rougeole alors qu'il a été vacciné? Et de ce fait, c'est plus compliqué de poser le diagnostic puisque les parents pensent qu'il ne peut pas l'attraper. Du coup, on le soigne pas forcément bien. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Effectivement, Monsieur Arasen, c'est possible dans le sens où un enfant qui est vacciné, nous n'avons pas à 100% l'immunogénicité. Donc, c'est juste un mot pour expliquer que le but, l'objectif d'être vacciné, et c'est de monter une immunité contre, ça peut être la rougeole ou n'importe quel autre type de maladie qu'on vaccine contre. Donc là, l'efficacité, c'est entre 80% et 90%, et qui fait qu'il y a quelques enfants, 10%, 15%, parfois jusqu'à 20%, qui échappent. Que le corps, pour une façon, une manière ou une autre, ça réagit pas, en fait, à cette vaccin. Donc, c'est possible, effectivement, qu'un enfant, même s'il était vacciné, qu'il développe la rougeole. Par contre, c'est pour ça que c'est fortement conseillé d'avoir davantage une deuxième dose, parce que nous donnons le premier dose à 9 mois et on parle d'un deuxième dose si possible à 12 mois. Et aussi prendre avantage de toutes ces des campagnes de rattrapage en cours, d'encore aussi, on peut dire, à renforcer tout ce qui a été fait avant.
Alors, on a compris, l'essentiel des enfants seront protégés et même s'il y a cette portion regrettable forcément, puisque Arsène l'a vécu avec son fils d'enfant qui échappe à l'immunisation, et bien malgré tout, il faut conseiller absolument aux parents d'amener les enfants pour les faire vacciner, c'est essentiel.
Oui, c'est essentiel parce que la rougeole, c'est une des maladies, on peut dire qu'il y a quelque chose qu'on dit l'immunité collective ou l'immunité des groupes. Disons que au-delà de 80% ou 90% de la population vaccinée, ça va diminuer le risque d'avoir une flambée ou une épidémie. Donc, à part le fait que ça protège l'enfant qui est vacciné, mais ça protège aussi toute la communauté.
Toute la communauté. Merci beaucoup, hein, Arsène, pour votre témoignage et pour votre question. Le temps passe vite, alors je vais reprendre dans ma voix la question qui a été posée par Luc, qui est infirmier à Lubumbashi. Il a des cas de rougeole qui arrivent dans son centre de santé. Des personnes ont des œdèmes, donc des gonflements au niveau du visage, des yeux, de la bouche. Est-ce que c'est lié à la rougeole? C'est la question qu'il nous pose.
Alors, l'œdème en soi n'est pas une des symptômes connus pour la rougeole, mais comme j'ai dit avant, c'est possible que la rougeole crée des complications. Donc, par exemple, la malnutrition, l'œdème est une des symptômes ou des signes de la malnutrition. Donc, c'est possible qu'un enfant qui a la rougeole peut présenter avec ce type de signes. Et ça peut être aussi une autre complication avec une défaillance de membres. En fait, c'est ça qui peut créer ce type de symptômes. Donc, effectivement, oui, peut-être c'est la rougeole et effectivement, c'est potentiellement une des complications à vue.
Tout à l'heure, on parlait justement de ce bilan de 6000 morts, ce qui peut justement expliquer qu'il y ait autant de victimes. C'est la situation sanitaire, on va dire, générale de la population de RDC, de beaucoup d'obstacles justement à cette prise en charge de la population. Il y a la rougeole, mais bien évidemment, il y a toutes les autres maladies.
Oui, effectivement. Le paludisme, surtout pendant la saison pluvieuse, on parle de la malnutrition, nous parlons des autres maladies infectieuses, par exemple la pneumonie qui est aussi une des complications de la rougeole. Donc effectivement, la population subira plusieurs différents types de maladies qui fait que pendant une épidémie comme ça, un enfant qui est déjà affaibli parce qu'il a eu le paludisme quelques jours avant, ça peut être grave.
Merci infiniment pour toutes ces réponses, docteur Christopher Mamboula. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable médical des opérations RDC pour Médecins sans frontières.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé, situation sanitaire en République démocratique du Congo. Avec à présent un coup de projecteur sur l'épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit depuis 18 mois maintenant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Coup de projecteur avec ce reportage que vous avez signé. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors avec vous, on va partir pour le territoire de Nyiragongo. C'est là que se trouve le parc des Virunga, connu notamment pour son célèbre volcan, le Nyiragongo, la ville de Goma au bord du lac Kivu. Alors vous étiez sur place, Igor, en décembre dernier, pour parler de la sensibilisation à la maladie à virus Ebola. Dans ce contexte, vous avez pu suivre les actions du club RFI Goma pour lutter justement contre l'épidémie. Pour bien comprendre d'abord l'action de ces clubs et pourquoi le club RFI Goma s'est engagé dans cette riposte, Igor, contre la maladie.
Les clubs RFI, pour ceux qui n'écoutent pas régulièrement notre radio, sont des clubs donc montés par des passionnés de RFI pour mener des actions concrètes sur tout le continent avec l'accord du service des auditeurs de RFI. Il faut donc mener des projets ambitieux pour avoir son soutien. Les membres du club RFI Goma, Zachary Bachouira, Nathanaël Bora et Séraphin Mahassano, ont estimé qu'un an après le décès d'un patient victime d'Ebola sur le territoire de Nyiragongo, il était important de renforcer la sensibilisation de la population. Et le projet a été jugé suffisamment sérieux et ambitieux pour être soutenu par RFI et ensuite intégrer le programme officiel de la riposte du pays.
Alors concrètement, quelles sont les actions, Igor, menées par le club RFI Goma ?
Alors ils font de la sensibilisation auprès du grand public, des enfants, mais aussi des chefs coutumiers et des tradithérapeutes. Et pour cela, ils disposent de deux nouveaux supports, une BD et un film qu'ils ont réalisé avec des dessinateurs et des réalisateurs confirmés du pays et financés par la cellule de crise et de soutien du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Ces deux outils ont rencontré un franc succès car ils parlent très simplement de la maladie à virus Ebola et sont donc accessibles à des gens pas forcément lettrés.
Alors, on va suivre ces actions spécifiques. Par contre, Igor, nous n'entendrons pas les officiels de la riposte à l'épidémie d'Ebola.
Non, ils ont refusé de répondre à mes questions.
Allez, on monte en voiture avec vous, Igor, en compagnie de Nathanaël Bora, chargé des activités de lutte contre la maladie à virus Ebola du club RFI Goma.
C'est ouvert.
Ah, voilà. Je crois.
Le premier cas a été découvert à Mangina, dans le territoire de Lubero. C'était le 8 août 2018. Et voilà, une année après, il y avait toujours des résistances, toujours des cas de décès d'Ebola. Mais on a aussi remarqué qu'il y avait une grande résistance de la population contre les équipes de la riposte. Alors le club RFI a initié le projet Naitika, Najikinga, Nakinga. Un projet qui signifie « j'accepte que la maladie à virus Ebola existe ». La maladie est une réalité. Je me protège contre cette maladie parce que c'est une maladie dangereuse. Je me protège parce que je risque de perdre ma famille. Je risque de contaminer les autres. Je dois prendre des précautions. Je protège la communauté. Donc, nous avons toujours à faire parce qu'il y a donc résurgence des résistances dans le Béni où il y a encore des agents de la riposte qui ont été tués. Donc nous devons multiplier les efforts pour que ces résistances prennent fin et que l'autorité soit capable de proclamer la fin de l'épidémie afin que la population comprenne que cette maladie est guérissable, cette maladie peut être éradiquée.
Merci Nathan.
Merci beaucoup.
On continue ? On va par où maintenant ?
Maintenant on va à Nyiragongo voir les tradipraticiens. Voir le médecin-chef des zones de Nyiragongo, c'est un technicien qui s'y connaît dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous allons voir aussi les coutumiers, les chefs coutumiers de Nyiragongo, là où le 3 cas d'Ebola a été enregistré, où nous avons eu un mort et deux guéris.
Très bien, bah allons-y.
Merci.
Et il pleut toujours sur Goma.
Il pleut toujours, oui.
Mais nous sommes dans la voiture, donc protégés.
Il y a aussi des résistances qui sont liées au CTE.
Au centre de traitement.
Le centre de traitement Ebola. Parce qu'on dit que dans les CTE, on mutile les gens. Qu'on injecte la maladie à virus Ebola, tous ces malades qui sont là.
Et pourquoi on dit ça sur les centres de traitement ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on mutile ? D'où ça vient cette rumeur ?
Bon, cette rumeur est venue de Béni. Parce que même le cadavre du malade d'Ebola est très contagieux. il faut une équipe bien protégée avec des tennis. Le fait que on écartait la population, on écartait la famille du défunt, la population disait, alors pourquoi cette équipe de riposte veut seule appliquer ce qu'on appelle l'enterrement digne et sécurisé? Avec Ebola, on écarte toutes ces cérémonies, toutes ces étapes. Ils disent que quelque chose est louche.
Alors cette défiance à l'égard des autorités, elle est telle que certains jeunes ont même été jusqu'à déterrer un corps, c'est ça?
Oui, oui. À Beni, il y a des jeunes qui sont allés déterrer un corps pour voir réellement si on a mutilé le corps du défunt. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu trouver de preuves de mutilation. Et c'est vraiment déplorant pour voir la jeunesse qui est censée être instruite à faire des trucs pareils, aller déterrer un mort. C'est un manque de respect déjà au défunt, puisque un mort, il est respecté dans nos coutumes. On ne doit pas aller la se fermer sur sa tombe, quoi.
Bonjour docteur.
Bonjour,
je vous laisse vous présenter.
Je suis docteur Dan Kapuko Kayembe, le médecin chef de zone de santé de Nyiragongo.
Alors où est-ce qu'on est là actuellement?
Actuellement nous sommes dans la zone de santé de Nyiragongo, précisément dans l'aire de santé de Kiziba. C'est un centre de santé de référence. Et comme je voulais le signifier, dans cette aire de santé, c'est là où on a eu à notifier un cas de maladie à virus Ebola.
Un cas qui est décédé, c'est ça?
Le cas qui est décédé, mais dont le dé qui était généré était sorti guéri.
Mmh. Ouais. Est-ce que du coup ça crée un peu une sorte de psychose ici dans le quartier et dans le centre de santé?
Oui, c'est tout à fait normal. Quand il y a la maladie à virus Ebola, c'est la panique totale. Mais tout ceci grâce à nos équipes qui travaillent correctement. Nous sommes en train de surmonter tout ce genre de résistance et de réticence.
Et parmi le personnel soignant, est-ce que certains aussi doutaient un peu au début de la maladie ou tous ont tout de suite compris qu'il y avait un vrai problème de santé publique?
Il s'y est de signaler ici que concernant la maladie à virus Ebola, la ville de Goma ici, les gens étaient déjà préparés. Les personnels soignants ont reçu des formations en rapport avec les informations générales sur la maladie et les moyens de lutte. Et même la plupart étaient déjà vaccinés avant même que puisse déclarer la maladie dans notre centre de santé.
C'est-à-dire que si un malade qui présente les symptômes Ebola arrive, tout le personnel soignant sait quoi faire?
Tous les personnels sont déjà formés et nous avons déjà des dispositions au niveau de triage. Dès que la personne répond à la définition des cas suspects, il est déjà mis à l'isolement. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le diagnostic de la maladie à virus Ebola est exclusivement paraclinique. Donc c'est au niveau du laboratoire qu'on confirme si on a Ebola ou pas. Mais tous les cas avant le laboratoire sont des cas suspects.
Alors imaginons qu'un cas suspect justement arrive ici. Quelle est la procédure? Qu'est-ce que vous faites du coup?
Lorsque nous avons un cas suspect, le malade est d'abord isolé dans un espace propre pour ce malade suspect. Et directement, nous devons passer l'appel au niveau de la centrale d'alerte. Et la centrale d'alerte a la responsabilité, si le cas est confirmé, d'informer directement l'équipe de prise en charge. C'est l'équipe de prise en charge qui est chargée de venir chercher le malade avec une ambulance médicalisée qui est adaptée pour acheminer le malade vers le CTE.
Alors la riposte concerne différents services, il y a toute une stratégie mise en place. Est-ce que vous diriez que cette stratégie couvre vraiment tous les besoins ou est-ce qu'il y a encore des points qu'on pourrait améliorer?
Bon, en fait, d'abord, on doit dire que la surveillance ne concerne pas seulement la maladie à virus Ebola. Nous avons beaucoup de maladies qui sont sous surveillance. Nous avons, par exemple, l'épidémie de choléra que nous sommes en train de faire face aussi, mais aussi l'épidémie de rougeole que nous sommes en train de faire face. Donc, c'est vrai, la riposte évolue normalement, mais pour mettre fin à cette épidémie, normalement, c'est de couper la chaîne de transmission. Mais cela n'est possible que lorsque nous avons l'engagement, l'appropriation des actions, des ripostes par la communauté. Mais cependant, ce qui pose encore des problèmes, c'est par rapport au déplacement des personnes contacts des maladies à virus Ebola qui sont dans une zone d'épidémie qui peut faire seulement un problème. Donc l'effet de ne pas maîtriser tous les contacts, c'est là le plus grand défi auquel nous devons faire face.
Est-ce qu'une personne contact peut voyager, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Normalement, quand on est contact, on doit compter 21 jours révolus avant qu'on puisse faire d'autres déplacements. Et ce qui pose problème, nous avons quelquefois des contacts perdus de vie, des contacts qui se sont déplacés ou les contacts encore réadmis comme contact. Donc quand on est contact et qu'on participe encore à un enterrement, c'est une personne qui est décédée d'Ebola ou on a été en contact encore d'une autre personne, ça devient encore une réadmission comme personne contact. Et là, ce sont des éléments qui prouvent que la personne n'a pas encore pris conscience de ce que c'est la maladie adverse Ebola.
Merci docteur.
C'est moi qui vous remercie.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter, monsieur.
Je m'appelle Bati Bazirak Edouard. Je suis l'administrateur des territoires assistants de Nyiragongo.
De la riposte Ebola également.
Chargé des questions. Ebola, c'est un problème de santé publique. Et c'est pourquoi quand nous avons rapporté un cas, précisément dans l'aire de santé de Kiziba, dans le village de Bougamba 2, en tout cas, c'est tout le monde qui était mobilisé pour que ça ne puisse pas se propager. Et on voyait que c'était un danger, non seulement pour les populations au niveau de Rutshuru, au niveau de Nyiragongo, mais également au niveau de la ville de Goma. Parce que d'aucuns ignorent que les territoires de Nyiragongo constituent la porte d'entrée de la ville de Goma. Et vous voyez tous ces millions d'habitants qui se trouvent à Goma, si on veut les protéger contre cette maladie, il faut commencer à sécuriser les territoires de Nyiragongo qui constituent l'entrée. Nous devons travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones toujours en épidémie, comme le Grand Nord, la province de l'Ituri, là où on rapporte encore des cas. Et vous savez, il y a aussi l'insécurité dans ce coin de la province du Nord Kivu qui fait que la population ou certains habitants puissent se diriger au niveau de la ville de Goma, au niveau du territoire de Nyiragongo, à cause de l'insécurité. Maintenant, c'est pourquoi nous devons travailler, surtout les postes d'entrée, comme la barrière de Kanyaruchinya, il y a des véhicules qui passent. Il y a maintenant les agents chargés maintenant de vérifier ou de contrôler ces mouvements avec le lavage des mains, avec les thermoflashs, prélever la température pour voir tout le monde qui passe s'il n'est pas malade, soit s'il n'est pas atteint par cette maladie. Et là, il y a un problème qui se pose. Partout où nous avons été dans la sensibilisation au niveau du territoire, parce que le territoire de Nyiragongo, c'est une entité qui comprend 65 villages, et au départ, la population ne savait rien par rapport à la maladie à virus Ebola. Et il y avait aussi des résistances. Parce qu'il y a des gens qui disaient non, Ebola c'est un truc, c'est une maladie qu'on a fabriquée, ça n'existait pas. Mais tout au départ, il a fallu qu'on puisse faire comprendre à cette population que Ebola n'est pas une maladie récente, ça existait depuis 1977 ici en République démocratique du Congo. Il a fallu donner des généralités sur cette maladie, mais aussi donner les modes de prévention. Petit à petit, la population a compris, mais il y a un danger. Le territoire de Nyiragongo, depuis son existence, n'a pas de source, de rivière, pas de cours d'eau. Mais quand on demande à une population de se laver à chaque fois que cette population fait une activité ou termine une activité, vous trouvez que là où il n'y a pas d'eau, parfois il y a déjà dans des milieux reculés du territoire où on se lave seulement uniquement le dimanche. Alors, le manque d'eau, c'est un danger pour ces territoires. Mais cette population, que je remercie toujours, a compris. Et voilà pourquoi aujourd'hui, au niveau de Nyiragongo, depuis le mois de juillet, on n'a pas encore enregistré un autre cas. Mais nous ne devons pas croiser les bras. Nous continuons avec les activités de sensibilisation jusqu'à ce que l'autorité compétente pourra dire non, nous déclarons zéro Ebola en province du Nord Kivu. C'est là que nous en ont aussi cessé avec les activités de sensibilisation.
Merci beaucoup.
Merci aussi.
Ebola n'est pas d'un régime mystique. Il tire justement sa force de notre silence. Notre implication dans les actions des ripostes reste le seul moyen pour vaincre ces monstres. Jomana Naitika, j'accepte. J'accepte que Ebola existe. J'accepte que Ebola est contagieuse et encore plus ravageuse. J'accepte. J'accepte que nos morts soient enterrés d'une manière digne et sécurisée et par des équipes de riposte habilitées. J'accepte. J'accepte d'être vacciné pour prévenir ces virus. Et surtout quand j'ai touché ou lavé, quand j'ai soigné ou manipulé une personne infectée ou morte de la maladie à virus Ebola.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, nous parlons de la riposte à l'épidémie d'Ebola dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage d'Igor Strauss sur le territoire de Nyiragongo, entre le parc des Virunga et la ville de Goma, au bord du lac Kivu. Alors à présent, c'est en compagnie de Nathanaël Bora du club RFI Goma qu'on va rejoindre avec vous, hein, toujours Igor, une école de Nyiragongo.
Oui, c'est l'école Soleil Levant qui recueille tous les enfants les plus démunis, les orphelins. Alors, il y a également une radio dans cette école, la seule radio d'ailleurs du territoire de Nyiragongo, pour faire passer des messages de sensibilisation sur différentes maladies. Alors malheureusement, tout cela est très précaire, faute de soutien financier. Mais le directeur de l'école, Crispin Kitetembelizi, fait de son mieux pour mener à bien ses activités. Alors le jour de ma venue, il y avait une séance de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Avec au menu un concours de poèmes, un jeu autour de la BD sur Ebola et un spectacle de danse traditionnelle.
Je crois que vous avez vu la route que vous avez effectuée pour arriver ici. Nous sommes au village.
La route, c'est un chemin de terre boueux.
Oui, c'est vraiment très catastrophique. L'accessibilité, c'est tout un problème. Le problème des maladies. Ici, il n'y a pas l'eau potable. C'est pourquoi il y a vraiment le choléra. C'est un problème dans le milieu, parce que les gens prennent l'eau de la pluie. D'autres qui n'ont pas de moyens, il y a de véhicules, camions qui apportent l'eau. Ils ont la population a le système d'éréger des tanks d'eau, mais qui ne sont pas vraiment propres. Et les gens consomment cette eau-là. Tout ça sont des problèmes que courent la population dans ce milieu ici. Et vraiment, c'est une population qui a connu beaucoup de crises, beaucoup de problèmes. C'est sur base de tout ce problème-là que nous initions de projets, voir dans quelle mesure on peut contribuer, aider cette population à quitter dans cette crise. Mais jusqu'à là, il y a encore un problème parce que les moyens sont limités.
Alors justement, qu'est-ce que vous dites dans vos messages de sensibilisation? Sur quoi insistez-vous?
Par exemple, le lavage des mains.
Donc là, j'ai vu effectivement à l'entrée de l'école, comme partout ici au Congo, on peut se laver les mains avec de l'eau chlorée.
Oui, il faut se laver les mains. Partout, mais vous allez voir, vous allez vous rendre compte que jusqu'à là, il y a de ces écoles, il y a de ces églises qui ne se lavent pas demain. Ça d'abord, c'est une difficulté. Faute soit de moyens pour avoir l'eau d'abord, c'est tout un problème. Comment avoir cette eau-là? Parce que pour avoir l'eau ici, un bidon d'eau coûte 200 francs. 200 francs congolais. Et le 200 francs-là, c'est aussi une mer à boire. C'est pour en avoir, c'est tout un problème. Il y a là où le bidon coûte 500 francs congolais. Un ménage qui vit autour du jour avec 1 dollar, même 1000 francs. Pour trouver un bidon d'eau à 500 francs, c'est tout un problème. Dans notre école, nous avons plus de 300 élèves, 400 élèves. Chaque fois, utiliser l'eau pour se laver le matin, avant d'entrer, ça c'est un problème. Et ça fait à ce que certaines personnes ne sont pas plus intéressées ou bien ne pratiquent pas cette mesure-là de prévention à cause de moyens limités.
Parmi tous vos élèves, tout le monde croit en la maladie ou certains doutent encore de son existence?
Il y a ceux qui doutent de l'existence. Et c'est pourquoi même dans des sensibilisations, nous essayons un peu de faire voir les élèves et les personnes comme quoi la maladie, c'est une maladie réelle et que ça existe. Mais il y a ceux qui résistent et disent que c'est une maladie imaginaire. C'est un problème qui est là, donc nous devons combattre cette maladie. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut encore de fortes sensibilisations.
Bonjour.
Asante.
Mimi kama mganga wa majani président Wabaganga Bakusa Majani ba Kiziba 2 Kiziba 1.
Je m'appelle docteur Charles. Si je m'appelle docteur, c'est puisque je suis un tradit praticien. Et comme tradit praticien, avec après nous avoir été sensibilisé par les clubs RFI, je sais désormais que la maladie à virus Ebola existe. Depuis qu'on a pris connaissance des symptômes de cette maladie, nous observons désormais des mesures préventives, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la communauté. Et quand on reçoit des cas, on s'assure d'abord qu'ils souffrent de quoi, quels sont les symptômes qu'ils manifestent. Si ce ne sont pas des cas qui réfèrent à Ebola, on peut les soigner. Si ce sont des cas qui réfèrent à Ebola, nous aussi, on nous conseille d'aller à l'hôpital.
Na zile kazi tunazipata kufatana na gizi walituelezea ugonjwa iko na tukajua wakati walitusensibilize.
Depuis que on avait reçu des formations, ça nous a permis nous aussi de comprendre désormais que la maladie à virus Ebola est très dangereuse pour la communauté et comment la détecter et comment se prévenir de cela. Et désormais, nous aussi, nous sommes devenus des sensibilisateurs. Et surtout que moi, je suis le président de tous les herboristes du territoire de Nyiragongo. J'ai sensibilisé aussi tous les autres herboristes pour qu'à leur tour, ils puissent aussi prendre les précautions et qu'ils comprennent réellement que la maladie de Ebola est réelle. Au début, j'étais très résistant puisque je me disais que c'était une maladie qui n'existait pas. Mais depuis que j'ai été sensibilisé, moi-même j'ai compris réellement que c'est une maladie qui fait des victimes et qui peut être très dangereuse.
Mais
il y a vraiment des gens qui sont venus vous voir et qui étaient malades d'Ebola?
Ndio, kuko umuntu alitokea.
Oui, j'ai traité un cas suspect, quelqu'un qui venait de Kibumba. Il présentait des signes d'Ebola puisqu'il faisait des hémorragies. Et moi, quand je l'ai vu, je l'ai directement référé à l'hôpital Selem. Et c'est de là qu'on les traite. Et ça, tout ça, c'est grâce à la sensibilisation que j'avais reçue par les clubs RFI que j'ai compris ça.
Il
y a beaucoup de personnes qui viennent voir les tradis praticiens justement parce qu'elles n'ont pas confiance en la médecine moderne. Donc si quelqu'un refuse d'aller à l'hôpital ou au CTE, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous?
Lorsque je reçois des cas comme ça, évidemment, ils me disent qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital. J'essaie de les conscientiser afin qu'ils comprennent que réellement, c'est l'hôpital le dernier recours. Et ils viennent, ils me disent que non, s'ils partent au centre de traitement Ebola, on va les mutiler des organes génitaux, on va jouer sur leur état physiologique pour qu'ils puissent plus continuer la procréation. Et moi, je leur dis que c'est très faux ce qu'on vous dit là-bas, puisque si vous partez au centre de traitement Ebola, vous serez pris en charge et tout va bien se passer. Il y a des cas récents, un papa qui est venu auprès de moi, je lui ai donné le même conseil puisque j'ai vu qu'il avait des signes. Je l'ai référé à Monigi, qui est un hôpital où il a eu des soins. Et désormais, il est guéri et lui-même, il est venu me remercier pour me dire que je l'avais aidé puisque si je ne l'orientais pas, il serait décédé.
Est-ce que tous les tradis praticiens ont été sensibilisés comme vous ou est-ce que certains continuent de soi-disant traiter des malades d'Ebola? Et est-ce que vous connaissez des tradis praticiens qui sont décédés, du coup, contaminés par Ebola?
Oui, il y a un cas, mais je ne saurais pas confirmer s'il est décédé d'Ebola. Mais c'était un confrère herboriste qui est décédé. Il venait de Masisi. Et puisqu'il a traité des cas qui étaient plus ou moins contagieux et suspects. Mais ça, c'était avant qu'on puisse être sensibilisé. Car les enseignements qu'on avait reçus les jours-là, ça nous aide actuellement dans la pratique de ce que nous faisons.
Est-ce que Ebola, ça vous fait peur, vous?
Ebola, mina yoko pasana.
Oui, je crains la maladie à virus Ebola désormais, mais avant je n'y croyais pas comme je l'ai dit tantôt. Et j'essaie de dupliquer cette sensibilisation auprès des autres pour qu'elles aussi comprennent. Mais malheureusement, malgré que c'est une maladie dangereuse et que nous sommes exposés comme tradis praticiens, jusque-là on n'a aucun kit de protection, il n'y a rien qui nous protège aussi davantage, alors qu'on a finalement compris que c'est une maladie qui existe et qu'il ne faut pas traiter tout cas qui se présente devant nous, il faut référer. Mais avant de les référer, on aura déjà posé des premiers actes qui peuvent déjà nous exposer aussi. Et d'où la nécessité d'être équipés comme tant d'autres, d'être appuyés, d'être financés, afin que nous aussi, nos hôpitaux traditionnels puissent avoir un niveau de protection et de viabilité souhaité.
Merci.
Merci.
La santé, ça.
La santé, je cours, ça.
Alors, Nathan, vous me disiez...
Ouais, je vous disais que nous sommes avec notre ami Blackman. C'est un artiste, un grand artiste de la ville. Avant d'être sensibilisé, il avait une chanson qui n'était pas vraiment une chanson de sensibilisation pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ça, c'était par manque d'informations. Et nous, le Club RFI, nous avons pris cette initiative pour le sensibiliser afin qu'il sensibilise à son tour la jeunesse qu'il admire pour lutter contre cette maladie qui fait rage dans la ville de Goma.
Bonjour Blackman.
Ah, bonjour.
Nathan le disait au début, vous avez chanté une première chanson qui disait qu'Ebola finalement ça n'existait pas. Pourquoi un tel message? Qui vous avait dit que finalement cette maladie était inexistante?
En fait, moi je suis l'artiste révolutionnaire. Mon peuple m'appelle l'air micro ou la voix des sans voix. Et la grande partie de la population croyait que cette maladie n'existait pas. Moi, en qualité de l'air micro, j'ai pu faire la chanson Ebola Madola ou Ebola Dollar parce que nous avions cru que c'était le business. Et puis, il y a mon disciple de Beni qui était décédé évidemment de la même maladie. Et c'est avec ça que j'ai confirmé sans ambiguïté que cette maladie existait et j'ai pu faire la chanson avec le projet Naïti Kanakinga Najikinga grâce au club RFI Goma.
Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir cru en la maladie?
Oui, je regrette évidemment du fait que j'ai perdu mon petit disciple avec qui je faisais le même combat de ne pas accepter que la maladie existe.
Black M, vous me faites a cappella le refrain de votre chanson pour sensibiliser la jeunesse?
Naitika na kinga na jikinga, kume ebola ni malali ambaya. Naitika na kinga na jikinga, kume ebola ni malali ambaya. C'est ça le refrain.
Merci Black M.
Merci mon frère.
Igor Strausser, merci beaucoup pour ce reportage consacré à la sensibilisation à la maladie à virus Ebola. Bien sûr, un grand merci hein, à tous les membres du Club RFI Goma. On espère qu'ils sont à l'écoute pour tout le travail, tout le soutien apporté lors de ce reportage. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise Priorité Santé. À Setoussama Kéophilie Lassène, Victor Hull. Demain, toutes vos questions sur la santé du cœur à l'occasion des Journées européennes de cardiologie. Pour nous joindre, bien sûr, la page Facebook de l'émission et notre numéro 33 1 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner où que vous soyez pendant ces 366 jours. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.